Voilà, donc je continue. Cette fois-ci, je vais présenter Bernard-Marie Dupont, que je remercie chaleureusement d'être venu ce soir. Et c'est vrai qu'on est très heureux de t'accueillir ce soir dans cette première soirée. Alors, on peut dire que tu fais partie des pionniers, en quelque sorte, en matière d'éthique, parce que tu as été un des premiers à souligner et à comprendre l'intérêt et les enjeux éthiques de la pratique médicale. Alors, on peut dire que tu as une pratique de l'éthique qui est tout à fait remarquable par son étendue et qui présente des aspects les plus variés. Alors, d'abord, tu es professeur de philosophie, habilité à diriger des recherches, médecin aussi. Et puis, donc tu enseignes depuis, à l'origine aussi, au moment de la formation de l'espace éthique à Sciences Publiques Hôpitaux de Paris. Et donc, tu es enseignant à Paris. Tu as été aussi membre du comité éthique de l'INSERM pendant plusieurs années. Et puis, en plus de ces activités d'enseignant et de chercheur, alors tu as participé à une expérience tout à fait étonnante, qui est celle d'avoir mis en place au Canada, à la fois le département de bioéthique du CHR de Québec, je crois, et puis le comité éthique aussi de la faculté de Québec. C'est dire que tu as une connaissance très fine de tous ces rouages institutionnels, des enjeux, de ces avantages, de ces inconvénients aussi. Et puis, alors, aujourd'hui, tu as une pratique de l'éthique très diversifiée. Alors, tu présides au moins deux comités éthiques dans la région. Alors, tu, je crois, as fondé un organisme de formation qui est Médéthique, qui met en place donc des formations, mais aussi des chartes dans les établissements de soins. Tu présides l'Institut européen d'éthique de la santé à Bruxelles. Et puis, tu as des activités de conseil, d'experts au ministère, au Parlement européen aussi de Bruxelles pour les questions de bioéthique. Alors à cela s'ajoute, la liste n'est pas exhaustive, hein, des ouvrages. Alors juste, je crois, un ouvrage qui va bientôt sortir, qui est le Dictionnaire de la mort, où tu as écrit...
qui est sorti.
Ou qui va sortir le 15, j'y achète. Et puis un autre ouvrage très intéressant que tu as dirigé, un ouvrage collectif qui s'appelle « Penser la médecine et ses philosophiques » chez Ellipse en 2002. Alors, tu as proposé un titre très intéressant qui est « Éthique et santé, éthique en santé, une nécessité, un effet de mode ou une contrainte juridique ?» avec un point d'interrogation.
Bien, bonsoir. D'abord, je voudrais remercier Mme Lefebvre, M. Danel et Pierre Hume de m'avoir invité pour cette première. Je vais essayer d'être à la hauteur de vos attentes, d'autant plus que je ne les connais pas. Donc c'est toujours une angoisse de voir une salle remplie face à un public qu'on ne connaît pas beaucoup et qui vient chercher sûrement quelque chose que je ne suis pas à même de lui donner. Donc je vais simplement essayer de vous donner quelques pistes de réflexion sur éthique en santé, espace... et puis surtout laisser un temps important, je pense, pour les questions. Donc je vais essayer de tenir la route en 45 minutes, de faire un résumé, parce que ça me semble important, de 2 millénaires et demi d'histoire de la médecine. Et comme 2500 ans en 45 minutes, c'est un peu juste, j'essaierai de le faire en trois dates importantes. Alors, juste... le mot d'espace éthique que vous inaugurez, si j'ai bien compris, c'est un mot auquel, évidemment, je suis très attaché, le mot d'espace, puisqu'il a été inventé. On peut dire que la paternité en revient réellement à Emmanuel Hirsch, lorsque, il y a 15 ans, on a cofondé l'espace, enfin, ce qui allait devenir l'espace éthique de la PHP. Alors, juste pour vous donner un aperçu de comment ça s'est passé, puisque ça s'est fait il y a 15 ans, et le 29 mars, un colloque au ministère de la Santé, on va fêter ces 15 ans. Quand on a, avec Emmanuel Hirsch, créé l'espace éthique, c'était une démarche complètement folle et complètement hors la loi. C'est-à-dire que Emmanuel Hirsch, qui était un philosophe de métier qui était sur France Culture, qui venait, lui, du milieu associatif lutte contre le sida, qui était un disciple de Foucault, et moi qui, à ce moment-là, venais, parce que je suis généticien, mais j'ai découvert par la génétique, tout à fait par le hasard, les soins palliatifs, qui revenaient d'Angleterre, où j'avais passé un certain nombre d'années. Moi, je défendais une approche questionnante de cette pratique nouvelle qui s'appelait les soins palliatifs. Emmanuel Hirsch défendait la question du sida. Et on s'est retrouvés tous les deux. Et on a voulu créer quelque chose. Quelque chose, c'était quoi ? Ben, c'était un lieu qui n'existait pas, une structure qui n'existait pas, hors académie, hors pouvoir, hors institution, hors tout. Dans lequel on pourrait être amené à réfléchir à nos pratiques soignantes, simplement. Le mot éthique n'était pas encore à l'ordre du jour, et le mot espace non plus. C'est-à-dire qu'on voulait essayer de dire, confronté à l'évolution de la médecine, confronté à tous les enjeux nouveaux qui apparaissaient. Par exemple, moi j'étais généticien, donc c'est clair que la génétique subissait de plein fouet un certain nombre de choses complètement nouvelles. Par exemple, un de mes maîtres à Glasgow a été un des pères de d'OI. Donc on parlait déjà clonage, on parlait fécondation, tube à essai, etc. C'était vraiment une évolution spectaculaire. Et on voulait réfléchir à simplement cette évolution de nos pratiques. Et donc on a créé un lieu qui n'existait pas en allant simplement squatter une partie inoccupée dans le quadrilatère historique, pour ceux qui connaissent, qui est un bâtiment de ce type, à Saint-Louis. Et on l'a squatté, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de meubles, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de chaises. On est allé prendre des chaises dans les services, on est allé prendre des tables dans des labos, et on n'avait aucune existence légale. Et donc, on a failli être expulsé plusieurs fois. Le directeur de la PHP a voulu mettre la force, etc. Après, il est devenu un des plus fidèles supporters, mais à l'époque, bon. Et puis, on a ensuite demandé l'asile politique. Et on a mis des années au sein de la PHP pour nous donner l'asile politique. Donc maintenant, on a nos papiers, mais tellement bien, d'ailleurs, en bonne et due forme, que l'espace éthique de la PHP, qui est vraiment porté à bout de bras depuis 15 ans par Emmanuel, moi je ne suis plus qu'un intervenant parmi d'autres, est aujourd'hui le seul espace éthique français référencé par l'OMS comme espace de référence. Nous sommes devenus d'un lieu, on avait la première salle, c'était le quart de cette salle, nous sommes devenus un groupe qui a formé des centaines d'étudiants, qui est devenue une école doctorale. Donc on forme déjà des masters, M1, M2, etc. On a des thèses, on a des thésards, on a des groupes de recherche, on publie énormément, on organise des colloques, on est référencé, et à tel point que lorsque Jean-François Mattei, alors ministre de la Santé, a voulu lancer cette idée d'espaces éthiques régionaux, d'ailleurs comme le recommande la certification, j'en parlerai peut-être des certifications, tous les membres de l'espace éthique de Paris ont été auditionnés et on a pu servir de modèle à la future création des espaces éthiques régionaux. Et vous savez peut-être pas, j'en sais rien, que sur le bureau de Mme Bachelot, depuis le mois de novembre, il y a deux décrets qu'elle doit signer qui organisent effectivement la création des espaces éthiques régionaux. Tout ça pour dire que ce lieu qui n'existait pas, Emmanuel Hirsch un jour a dit il faut que ce lieu ne soit pas un lieu de pouvoir, un lieu de prise de décision rude ou hiérarchique, il faut inventer un lieu de vie. Et il a eu l'idée d'employer, je pense, un mot remarquable qui était le mot « espace ». Et c'est lui qui a lancé le mot d'espace éthique. Et je pense qu'encore aujourd'hui, l'espace éthique en tant que mot a un réel sens. Un espace, c'est un lieu de vie. C'est un lieu dans lequel on circule. C'est un lieu dans lequel on vient confronter des idées, des expériences. On vient poser des questions, on vient parfois espérer des réponses. Il y a au moins une étudiante en master dans la salle, je ne sais pas s'il y a des réponses, mais en tout cas, les étudiants posent des questions. C'est vraiment un lieu de débat, c'est un lieu d'échange, dans lequel on rentre à la fois fort de toutes ces expériences diverses et variées, mais en même temps en laissant ce qu'on est aussi l'image sociale au vestiaire. Et parfois, par exemple, dans une promotion, il arrive que bien plus tard, je découvre que tel étudiant assidu était un procureur de la République, un président de chambre, un avocat général, une aide-soignante, un travailleur social, un professeur de médecine, un juriste d'entreprise, etc., un représentant d'association, un membre administratif de la paix, des gens qui viennent de Strasbourg ou d'ailleurs. Et je pense que donc le lieu qu'on a créé, l'espace que vous voulez créer, est la structure adaptée au sens où c'est véritablement le lieu qui permet l'échange, le débat, la confrontation, l'échange d'idées, de théories. On a des économistes de la santé, ils ne sont pas toujours d'accord avec nous, on n'est pas toujours d'accord avec eux non plus. Et on peut effectivement, dans ce lieu, débattre de tous les enjeux. Donc ça, c'est la première chose, l'espace. Donc un espace, moi je suis favorable à la création d'espace. D'abord parce que l'espace aussi, je ne suis pas forcément politiquement correct, c'est beaucoup moins rigide rigide qu'un comité. Un comité, ça peut avoir aussi quelquefois un aspect extrêmement formel et rigide. Un espace, c'est un lieu de vie. En théorie, dans un espace éthique, en théorie, je dis bien en théorie, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer, tout le monde. Alors, il faut être utopiste, tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Un comité, c'est beaucoup plus, on est marge, tout est codifié, on doit produire un avis. Bon, mais le comité, j'en dirais aussi un certain nombre de choses, peut-être dans les questions, un comité a aussi sa justification. Mais ce n'est pas la même chose qu'un espace. L'espace, il faut l'imaginer comme un lieu de vie. Donc c'est un lieu qui doit être ouvert, qui doit faire circuler, qui doit faire débat, qui ne doit pas nécessairement faire consensus, qui doit être le lieu véritablement où on va confronter nos pratiques, nos intérêts, nos questions sur l'idée de soi, nos expériences, pour essayer de les enrichir mutuellement. En 15 ans, l'espace éthique, on a eu des échanges exceptionnels. J'ai fait venir Paul Ricoeur, on a eu des philosophes, des médecins, des prix Nobel. Il y a eu des confrontations parfois très feu, des religieux, des évêques, des recteurs, de mosquées, etc. Enfin, on est des philosophes, on a vraiment essayé de confronter, faire vivre, animer le paysage. Et je pense que c'est le but d'un espace éthique animé. Alors, il y a un deuxième mot qui est évidemment central et pour lequel j'aurais voulu dire 45 minutes, mais comme je suis bavard, mon temps de parole est déjà largement amputé, c'est l'idée d'éthique. Bon. Ça nous emmènerait loin, mais c'est quand même important de voir un peu ce qu'on met derrière, parce que c'est bien gentil de dire il faut de l'éthique, il faut mettre de l'éthique, il faut des comités régionaux, locaux, institutionnels, nationaux, tout ce que vous voulez, si on ne sait pas nécessairement ce qu'on met derrière l'éthique. Derrière le mot éthique. Alors, je ne vais pas le faire ce soir, mais souvent, quand j'ai une formation comme ça, j'arrive à froid et je donne un exemple, un cas clinique tout simple. Et puis, je dis aux gens qui sont dans la salle, ben voilà, à la place du médecin, d'un point de vue éthique, qu'est-ce que vous auriez fait? Et c'est là où vous voyez que les gens auraient fait blanc, noir, vert, rouge, gris, etc., sur un cas très simple qui prend 10 minutes. Et on s'aperçoit que quand on parle d'éthique, dès qu'on met en pratique à la virgule après le mot éthique, ben c'est là que les ennuis commencent. Bon. Parce qu'effectivement, pour certains, l'éthique, c'est la morale. Pour d'autres, l'éthique, c'est le droit. Pour d'autres, l'éthique, c'est la déontologie. Pour d'autres, l'éthique, c'est la religion. Pour certains aussi, l'éthique, c'est l'économie. Par exemple, aux États-Unis, toute une doctrine qui considère que est éthique ce qui est économiquement rentable, par exemple. C'est un médecin nord-américain, il s'appelle Peter Singer, qui est professeur de médecine à Toronto, avec qui j'ai débattu il y a 10 ans, et qui m'a dit « Mais vous, les Européens, vous êtes cartésiens. » Je lui ai dit « Est-ce que vous avez lu Descartes ?» Non, il n'avait jamais lu. Mais il dit « Pour nous, l'éthique, c'est ce qui peut se penser en termes de retour sur investissement intéressant. » C'est-à-dire que si c'est intéressant d'investir pour la lutte contre le sida en Afrique, on va investir parce que ça sera éthique, parce que ça sera économiquement rentable, mais puisqu'il montre que le retour sur investissement espéré est très fragile, ben ça devient éthique de ne plus investir. Donc c'est aussi une démarche, aussi une approche. Peut-être aussi que l'approche économique dans nos pratiques de santé, elle est quand même de plus en plus forte. Bon. On parlera peut-être de la T2, hein, j'en sais rien. Bon, on verra. En tout cas, pour en revenir à la dimension éthique, il faut se mettre d'accord. Alors, c'est très difficile en très peu de temps, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que tout ce dont on débat n'est pas nouveau. On croit toujours qu'on l'a inventé, on n'a rien inventé du tout. Il y a un vieux monsieur, on l'a évoqué tout à l'heure, qui était chauve et qui avait les cheveux blancs, donc moi ça me parle, mais en plus il avait une barbe, donc là je sais que c'est pas moi, qui vivait il y a 2500 ans et qui s'appelait Hippocrate. Et il y a trois moments dans l'histoire de la médecine où il y a des changements absolument radicaux qu'il faut connaître. C'est Hippocrate il y a 2500 ans, c'est 1789, la Révolution française, les années qui viennent après et la constitution des hôpitaux modernes avec les salles communes, et puis 1970, McMaster au Canada, la naissance de la médecine statistique avec l'evidence-based medicine, qui vont renforcer le questionnement éthique et faire qu'aujourd'hui, certainement, on est là. Bon, 2500 ans, Hippocrate. Qu'est-ce qu'il dit Hippocrate ? Qui était à la fois un philosophe, un soignant-philosophe, ou un philosophe-soignant, je ne sais pas comment on pourrait dire, un homme de l'art. Il va être le premier à poser véritablement un acte révolutionnaire dont nous sommes encore aujourd'hui les héritiers, les témoins et les acteurs. C'est Hippocrate qui a réellement pensé la médecine d'aujourd'hui, telle que nous la vivons encore, même si elle est malmenée, et qui a montré la réalité de ce qu'était un acte de soin. Alors, toute son œuvre est colossale, elle est publiée et est très bien traduite, c'est une œuvre agréable à lire, donc je ne vais pas résumer en quelques minutes une œuvre absolument colossale, mais Hippocrate a montré qu'il ne pouvait y avoir d'actes de soins qui ne commencent et qui n'aboutissent, qui soient, dont le point de départ et le point d'arrivée soient la relation soignant-soigné. C'est-à-dire qu'il a pu montrer que on ne soignait jamais des maladies, on ne soignait jamais des néos qui se promenaient dans le couloir, on ne soignait jamais des facteurs de risque, forcément à l'époque ça n'existait pas, mais il a pu montrer que le point de départ et le point d'arrivée de la relation de soins, c'était le dialogue, le colloque singulier, ce qu'a repris ensuite Canguilhem, ce moment décisif qui s'appelle la relation soignant-soigné. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est toute la difficulté de la relation de soins, sa noblesse et sa limite. Le patient, pour une raison ou pour une autre, nous reconnaît, nous identifie, estime que nous sommes celui ou celle qui pourra répondre à la question qu'il pose. Et donc toute la question de l'art médical, encore vrai pour moi aujourd'hui, tel que va le poser Hippocrate, va être de dire toute la noblesse de l'acte de soin au sens large, qu'il soit général ou psychiatrique, va être de tenter de répondre le plus objectivement possible à une question que me pose parfois de façon très subjective le patient qui se présente à nous. Je ne sais pas ce qui m'arrive, docteur, mais je me sens très fatigué. Ben, il faut faire quelque chose de ça. Et ça, c'est quoi ? Ben, c'est transformer en un discours objectif ce qui apparaît souvent comme une plainte extrêmement subjective. Et tout se joue dans ce moment de constitutif, originaire, qui est entre ces deux personnes. Et Hippocrate va beaucoup plus loin, en montrant que donc, l'art médical, qui va être un art de la traduction, va être un art du contact, et que la médecine va s'apprendre au chevet. Au chevet, en grec, c'est la clinique. Et que donc, pendant des siècles, l'art du soin va être un art de la clinique, c'est-à-dire de la pratique du patient à son chevet, qui va faire intervenir tous les sens. Savoir entendre, écouter, palper, goûter, même, puisque j'ai une époque assez récente, on goûtait, par exemple, les urines. Et puis cette vision qu'avait Hippocrate avait un sens précis, c'est-à-dire qu'il disait, moi je suis convaincu que lorsque vous avez passé beaucoup de temps, le temps est une donnée essentielle en médecine, vous arriverez non pas à poser d'emblée avec certitude que le malade est atteint de telle ou telle maladie, mais par élimination successive à poser une hypothèse de départ. Je ne sais pas nécessairement si ce mal que vous m'exprimez est effectivement synonyme d'eux, mais moi je fais l'hypothèse que ça pourrait être ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, disait Hippocrate, il faudra un corpus de connaissances, il faudra des outils pour que, à partir de l'hypothèse que vous aurez posée, on essaie de vérifier l'hypothèse, soit en la confirmant, soit en l'infirmant. Et cette confirmation de l'hypothèse, il faudra aller la chercher ailleurs, par des examens, par une prise de sang, par un cliché radio, par tout ce que vous voulez, c'est-à-dire au-delà de la clinique, en grec, para, paraclinique. Donc, ne faire des examens que comme validation de l'hypothèse, et dans un troisième temps, puisque c'est toujours une danse à trois temps, l'hypothèse étant confirmée ou infirmée, à ce moment-là, si elle est invalidée, il faut reposer une nouvelle hypothèse, on en revient au patient pour en faire un partenaire de soins auquel on propose un partenariat thérapeutique. C'est-à-dire que dans toute la médecine hippocratique qui a traversé les siècles, le je et le tu, le soignant et le soigné, étaient des partenaires absolument incontournables, d'égale valeur absolue. C'est-à-dire que l'un devait pouvoir exprimer sa plainte, alors soit en mots, soit par le biais de son corps, soit de mille manières, et l'autre était censé quand même comprendre ce qui se passait et y répondre. C'est-à-dire qu'on était dans un rapport de force, symboliquement, peut-être de façon un peu utopique, qui était de l'ordre du 50-50. À la liberté qui est la mienne de pouvoir t'exposer ce dont je souffre, doit aussi pouvoir correspondre à la liberté qui est la mienne de soignant, qui est son expérience, etc., de pouvoir te proposer ceci. Et toute l'alliance thérapeutique, tous ces mots qu'on pense récents aujourd'hui, hein, qu'on pense nouveaux, c'est comme le mot soins palliatifs qui est entre parenthèses, il n'est pas du tout inventé en 67 par Sisley Saunders au Saint-Christopher Hospice de Londres. Il est dans toute la philosophie hippocratique. On parle d'accompagnement. Bon, dans l'acte de soins hippocratiques, soignants-soignés sont sur un même pied d'égalité. T'as pas plus de droits que moi, j'en ai pas plus que toi. On est dans la même galère, il faut qu'on essaye de faire un bout de chemin ensemble. Bon. Et il se trouve que cette approche épistémologique, c'est-à-dire scientifique de la façon de conduire la relation de soins, et se décalque complètement avec ce qu'on peut appeler l'éthique, ou l'éthique du soin, ou l'éthique tout court. Qu'est-ce qu'on appelle éthique ? On appelle éthique un questionnement, je fais vraiment très très court, et je résume en quelques mots, ce qui est scandaleux, la pensée de plus d'un demi-siècle de Paul Ricoeur, il me pardonnera. Si on veut définir ce qu'est l'éthique surgit au moment où la figure, le visage de l'autre survit à ma vue et à ma vie. Je vais faire très court. Je vais vous donner un exemple que vous allez retenir. Il y en a qui connaissent. Si je suis tout seul, je peux faire ce que je veux. Si je suis tout seul, je peux éteindre la lumière, je peux mettre la chaîne IFI à fond, je peux faire du bruit, les ennuis, en quelque sorte, enfin les ennuis, pas nécessairement, mais il va y avoir une étape qui va être franchie lorsque je vais me rendre compte que je ne suis plus tout seul. Être à deux, ça va être l'entrée possible en éthique, comme ça va être aussi l'entrée possible en conflit. Pourquoi ? Parce que si j'imagine que l'autre qui apparaît à ma vue est exactement comme moi, je peux imaginer qu'il va vouloir exactement la même chose que moi au même moment, sans distinguo. À ce moment-là, c'est merveilleux. Hein, c'est le principe du coup de foudre. On s'aime, on se reconnaît immédiatement. On part ensemble, main dans la main, à la même vitesse. Sauf qu'effectivement, on peut partir à la même vitesse. À mon avis, on ira jusqu'au bout de la rue. Et puis, très vite, il y en a un qui va dire... on va manger chez ta mère. L'autre va dire non, on ne va pas y aller encore ce dimanche manger chez ta mère. Cette fois-ci, c'est mon tour. On tourne à gauche. L'autre va dire on tourne à droite. Ben non. Alors qu'est-ce qui se passe très vite ? Ben, très vite, à partir du moment où nous sommes deux et non plus un, il y a une première tension, à valet qu'un, qui va apparaître et qui va faire que nous allons nous trouver face à un dilemme. Comment je vais répondre à la question de savoir si dimanche je vais encore manger chez ta mère ? Ben soit j'y réponds de la manière forte, c'est-à-dire qu'il y en a un qui prend le dessus par la violence en disant ben écoute, on va se battre tous les deux, et puis celui qui survit, il sera le plus fort et c'est lui qui décidera, c'est la loi de la jungle, hein, c'est les deux lions qui se battent pour une gazelle, c'est la plus forte qui l'emmène, l'autre se soumet. Soit on peut dire, peut-être que la violence n'est quand même pas la solution idéale. Et bien si vous partez du postulat tout simple que vous refusez la violence primitive comme étant pas forcément le meilleur moyen de régler un conflit, et bien vous entrez sur la voie de l'éthique. C'est-à-dire que l'éthique va apparaître à un moment donné de l'histoire des hommes, quand il y a au moins le deuxième homme, apparemment c'était une femme, c'était elle, mais comme étant le moment où, entre toi et moi, au moment où la question qui pourrait nous diviser surgit, on essaie d'y répondre autrement que par la violence. Donc le temps de l'éthique, c'est un temps du questionnement, c'est un temps ouvert, c'est un temps face auquel je dis, je ne sais pas nécessairement ce qui va se passer. Je n'ai pas d'emblée de solution, tu n'en as pas nécessairement d'emblée. Tu as peut-être la science infuse, mais je ne sais pas si ça va nous être utile. C'est-à-dire qu'il va falloir confronter, débattre, sur un principe qui doit être celui du 50-50, entre toi et moi, en valeur absolue. Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre, et il n'y en a pas un qui vaut moins que l'autre. Je le vaut bien, comme dit L'Oréal. C'est-à-dire que, a priori, on est ensemble au même moment et il faut qu'on partage. Si nous acceptons cette idée que nous devons faire vivre l'éthique, on va pouvoir faire un bout de chemin. On va pouvoir, effectivement, passer un certain nombre de dimanches. On va, par exemple, trouver un compromis. Le compromis qui consiste à dire ben, un dimanche chez ta mère, un dimanche chez la mienne, et puis les deux autres suivants, on reste à la maison. Ah, c'est intéressant. C'est un compromis. C'est pas tout à fait satisfaisant pour l'un, mais en même temps, on équilibre. On peut faire un bout de chemin. Sauf que va arriver à nouveau, l'espèce humaine étant ainsi faite qu'elle a une tendance fâcheuse à prendre la violence comme issue de secours, il y a un moment donné où, tout en ayant la volonté d'être éthique, on va tenter à nouveau, par usure, par fatigue, par tout ce que vous voulez, de dire, bon, ça serait plus simple qu'on règle le problème autrement, c'est-à-dire qu'on redevienne violent. Et à ce moment-là, il faut que le temps de l'éthique, qui est un temps du questionnement, soit redoublé par le temps de la morale, qui, elle, va être porteuse de valeurs, le bien et le mal, et qui va dire, je vous rappelle que vous vous êtes engagé à être éthique et que, apparemment, si vous avez fait un bon bout de chemin ensemble, là, vous êtes en train d'aller au-delà de ce qui est bien ou mal. Donc, je vous rappelle, moi, simplement, en tant que morale, je suis l'arbitre, que si vous allez au-delà, c'est franchement pas bien. Et puis arrive à ce moment-là... Alors ça, c'est par exemple le principe du contrat mariage. Hein, on va s'aimer d'amour et d'eau fraîche, on n'a pas besoin de contrat. Oui, mais c'est peut-être quand même bien d'avoir un contrat, on ne sait jamais. On n'a pas besoin. Oui, sauf qu'au bout d'un certain temps, le contrat peut se révéler très utile. Ben, le contrat entre toi et moi, qu'il soit formel ou peu importe, rappelle simplement la règle. C'est-à-dire qu'on peut se disputer, mais si je te tape dessus, c'est franchement pas bien. Et il faut qu'il y ait ensuite un troisième temps, qui est celui de la loi. C'est-à-dire que ce qui aura été décidé comme acceptable ou pas acceptable entre toi et moi, doit pouvoir aussi être généralisé à tous. C'est-à-dire qu'il faut, entre ce patient et ce médecin qui ont réussi à neutraliser, ou à se comprendre, ou à fonctionner, que cette façon de faire, ou de ne pas faire, soit reproductible à tous les patients qui viendront ensuite, ou à tous les soignants. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir universaliser ou généraliser. Donc c'est le sens de la loi. Donc, pour faire vraiment court, éthique, morale et droit, c'est la même famille. Il y a un vrai degré de parenté, il y a une filiation. Mais on pourrait dire que l'éthique est première, au sens chronologique du terme. C'est le questionnement. Quand on voit l'autre, c'est d'abord le mystère de son apparition qui m'interpelle. Bon. La deuxième génération, ça serait la morale, et enfin, les petits-enfants, ça serait la loi. C'est-à-dire qu'il y a bien une filiation, mais c'est-à-dire que c'est l'éthique qui est première, qui inspire la morale, qui à nouveau aussi inspire le droit. C'est-à-dire que le droit est normalement inspiré par la morale, elle-même inspirée par l'éthique. Alors, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que, par exemple, dans des problématiques de santé très concrètes, on pourrait très bien être confronté à un conflit entre éthique, droit, morale, etc. Je suis une infirmière de nuit, je suis confronté à un certain nombre de patients Alzheimer, je parle d'un exemple précis, qui déambulent dans les couloirs. Nous sommes deux sur deux étages pour 100 patients. je sens que je vais perdre le contrôle de la situation, il faudrait que je fasse une contention, j'essaye de prévenir le médecin qui est d'astreinte, impossible de le joindre au téléphone. Qu'est-ce que je fais ? Je respecte la loi qui me dit qu'à ce moment-là, je ne peux pas, je peux pas justement, puisque je n'ai pas de prescription écrite, faire une contention. Qu'est-ce que je fais ? Donc j'en fais pas, sauf que je ne suis pas sûr de pouvoir surveiller mes deux étages. Donc je ne désobéis pas à la loi. C'est un choix qu'elle a fait. Sauf qu'à 5h du matin, le patient s'est défenestré et il est mort. Et là, dans la suite de l'affaire juridique qui a été donnée, l'affaire n'est pas terminée, il y a les attendus quand même qui sont très intéressants, puisque un des juges a estimé que oui, il y a la loi, qu'elle a respecté la loi, mais qu'en même temps, peut-être que l'éthique primait et qu'elle aurait peut-être dû effectivement faire une contention, même si. Donc, posé en ces termes, on voit bien la hiérarchie chronologique, éthique, morale, droit. Alors, dans l'idéal, évidemment, il faut que l'éthique, la morale et le droit se rejoignent. Dans l'idéal, il faut que nos lois soient inspirées par la morale, elles-mêmes inspirées par l'éthique. On a des exemples récents dans l'histoire où la loi était vraiment une vraie loi, votée, écrite par des juristes, etc., alors qu'elle était à des années-lumière de la morale, à des années-lumière de l'éthique. Bon. Le dernier médecin SS survivant d'Auschwitz, Hans Münch, 95 ans, qui se porte comme un charme, qui est en liberté depuis 1947. Quand Daniel Mermet, dans Là-bas si j'y suis, lui a demandé, c'est quand même un type qui pratiquait des vivisections sur les enfants de ciganes, etc., etc., qui inoculait, qui faisait des opérations sans anesthésie pour voir, etc., qui plongeait des enfants dans l'eau bouillante pour voir combien de temps ils mettaient à mourir. Quand même un certain nombre d'expériences assez fortes. Quand il lui a dit, il lui a demandé ce qu'il pensait, s'il avait un remords, etc., il a dit, mais si j'avais le moindre remords, c'est que je me sentirais coupable. Or, je me sens absolument pas coupable, j'ai aucune faute contre, c'est texto, hein. J'ai aucune faute contre l'éthique, puisque de toute façon, j'ai toujours obéi à la loi. La loi nazie disait qu'il y avait des races humaines, qu'il y avait une race, ça tombait bien, c'était la mienne, qui était supérieure, et puis les autres étaient inférieurs. Donc je n'étais pas un monstre, je faisais que ce que disait la loi. Et la loi, c'était synonyme, là, dans ce cas de figure-là, d'éthique. Et il dit, comme j'étais pas un monstre, justement, eh ben, que je voulais, même si c'était pas tout à fait des êtres humains, des êtres humains, à la fin, je l'ai piqué, pour pas qu'ils souffrent plus. C'est exactement aussi ce que dit Amon Götz, le gardien du camp de concentration de, je crois que c'est Auschwitz, qui dit, avant d'être pendu dans son testament, et moi, pourtant, moi aussi, j'avais un cœur. C'est-à-dire que là, on peut aussi avoir, dans l'histoire récente, et parfois très récente, une superposition, une confusion éthique, morale, droit. Donc, alors, la deuxième date, c'est ce qui se passe en 1789, enfin, et les années qui suivent, c'est la Révolution française. Et la Révolution française a une conséquence, et en particulier aussi pour la psychiatrie, tout à fait inattendue sur nos pratiques de soins. Pourquoi ? Je vous rappelle que jusque cette époque de la Révolution française, le soin, c'était aussi une donnée très particulière. Le soin se donnait, par exemple, aux riches, aux nobles, aux puissants, se donner à domicile. Le seigneur était entouré d'une cour. Dans cette cour, il y avait, souvenez-vous des médecins de Molière, par exemple, il y avait un certain nombre de gens qui parlaient latin, qui étaient entourés de mystères, etc., parce que c'était aussi pour masquer une forme d'ignorance, mais en tout cas, le soin était réservé aux puissants, et puis les indigents étaient ramassés, il y avait une espèce de maraude qui les ramassait et qui les mettait où ? Ben dans des hôtels-dieux ou dans des hospices. Par exemple, alors je pense que ce lieu a servi, effectivement, je ne suis pas sûr, mais Seclin, par exemple, il me semble que ça a servi. Mais si vous prenez l'hôtel-dieu à Paris, c'est flagrant de voir que l'hôtel-dieu, comme par hasard, il est construit à côté de Notre-Dame, et que le lieu où il y a les guichets d'accueil, c'était le lieu où on accueillait, effectivement, tous ceux qu'on avait ramassés. Et puis donc, ils étaient là, amenés pour y mourir. C'est l'idée d'hospice que les Anglais ont gardé pour traduire le mot d'unité de soins palliatifs. Ils ont gardé le mot d'hospice. La Révolution française rentre dans ces structures. Qu'est-ce qu'elle fait ? elle met dehors les religions, elle met dehors les religieux, et elle supprime cette idée de médecine pour les riches et de médecine pour les pauvres. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit, maintenant, il n'y a plus des médecins qui iront chez les puissants et puis les autres qui viendront mourir. On va faire des salles, comme ici, dans lesquelles on réunira tous les patients, enfin, ils ne disent pas le mot patient, tous les gens qui semblent avoir quelque chose de grave et qu'on mettra dans la même salle. C'est-à-dire qu'on va créer les premières salles communes, de manière égalitaire. Et puis, pour que ça soit encore plus égalitaire, on va leur enlever leurs vêtements. Pourquoi ? Bah parce que le vêtement était, comme aujourd'hui encore, le phénomène des marques, la traduction sociale de ce qu'on était dans la société. Donc l'idéal révolutionnaire, c'est de dire tout le monde sur le même pied d'égalité et on donne à tout le monde un pyjama, le fameux pyjama de la PHP ou des hôpitaux lyonnais, hein, qui a pour but de casser la hiérarchie sociale. Et à ce moment-là, les premiers cliniciens français comme Pinel, par exemple, qui étaient aussi comme Louis, par exemple, des mathématiciens, vont trouver là un objet d'étude nouveau et extraordinaire qui va être à la base de la médecine très contemporaine, qui nous fait souffrir, qui va être de dire, mais ça c'est formidable ce lieu-là, parce que pour une fois on quitte le modèle hippocratique de la relation soignant-soigné, et on met là dans une même salle 100 à 150 malades qui semblent présenter des signes comparables. On va créer les conditions d'une connaissance objective de la maladie. C'est-à-dire qu'on va donner à la relation soigné-soigné un autre niveau qui va être celui de l'extrapolation des lois mathématiques et de tout ce qui va avec. C'est-à-dire qu'on va dire ben, ce qui va nous intéresser, c'est moins ce patient-ci, mais c'est l'ensemble des patients qui, là, se ressemblent et qui, donc, puisqu'ils se ressemblent, s'assemblent. Et donc, à partir des années 1800, effet involontaire de la Révolution française, eh ben on va voir arriver les premiers mathématiciens, donc les ancêtres des épidémiologistes, dans le champ de la santé et de la santé au quotidien. Et on fait un grand bond dans l'histoire, on arrive à 1970, à l'université McMaster au Canada, il y a un petit groupe de médecins canadiens, ils étaient une dizaine. Il y avait un précurseur venu de France qui s'appelait Jean-François Girard, qui allait devenir par la suite directeur général de la santé, qui dit « Maintenant, nous avons des connaissances mathématiques, nous avons des connaissances informatiques, il y a des gros ordinateurs qui permettent de faire des choses remarquables, on va changer le modèle épistémologique et on va reconstruire la santé, non plus à partir de ce patient-ci, mais de catégories de patients qu'on va inventer. » On va inventer l'evidence-based medicine, médecine fondée sur les preuves, qu'on appelle, ou les faits prouvés, EBM, que nous pratiquons tous quotidiennement, et qui établit, qui produit des normes, des chiffres, des mesures, des moyennes, etc. Et cette création dans les années 70 va nous amener tout doucement à la fin des années 80, en plus il y a eu quelques scandales, vous vous souvenez de l'affaire du sang contaminé par exemple, à une remise en cause, ou plutôt à l'idée que qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce que finalement on fait encore du soin ? Est-ce qu'on n'est pas en train de donner la priorité à des outils nouveaux, aux mathématiques, aux chiffres, à la mesure, déjà à l'époque à l'économie, etc. Et c'est à partir de la fin des années 80 réellement, mais en même temps François Mitterrand avait anticipé en créant le Comité consultatif national d'éthique, donc qu'on va se réapproprier la question éthique comme étant une question non pas nouvelle, ancienne, la question éthique, mais comme étant posée de façon nouvelle par le fait que la médecine, art de soigner, se transformait considérablement pour devenir une science exacte, une ingénierie du corps humain, une biologie du corps humain, dans laquelle les lois statistiques, les lois mathématiques, puis ensuite les lois économiques, etc., prenaient une part de plus en plus importante et mettaient en difficulté ce colloque singulier qui restait décisif. Autrement dit, bon, on va voir dans les questions après, hein, mais pour résumer, moi je reste hippocratique, c'est-à-dire que je continue de penser que tout part et tout finit aux soignants, à la relation soignant-soigné. C'est-à-dire que notre vocation de soignant, c'est de soigner. C'est tout bête, mais il me semble que c'est remarquablement efficace. Nous sommes formatés, c'est peut-être basique, mais nous sommes formatés pour soigner et on doit soigner. Et soigner, c'est quoi ? C'est jamais soigner La T2A, c'est jamais soigner un déficit, c'est jamais soigner, c'est d'abord soigner une personne. En ce sens, je continue de penser qu'Hippocrate a raison. Ceci dit, c'est vrai, nous avons besoin de connaissances. Ces connaissances font appel à des lois, à des outils, à des indicateurs, à des marqueurs, à des tout ce que vous voulez, par exemple en génétique, en biologie, etc., qui vont venir ou qui devraient pouvoir venir enrichir la relation de soi. Mais il faut faire très attention, et c'est la raison pour laquelle la dimension éthique va être décisive dans un espace éthique ou ailleurs, au fait de ce qu'on voit arriver depuis le début des années 90-2000, donc ça fait maintenant plus de 10 ans, un basculement très net dans nos pratiques de soins, d'ailleurs le soin tel qu'il est enseigné à la fac depuis les premières années, d'une dimension qui honorerait la relation de soin soignant-soigné vers une prise en charge beaucoup plus systématique et systémique, une prise en charge de pathologies, de grands noms, de populations, de facteurs de risque, etc., etc., dans laquelle, même si c'est intéressant en termes de connaissances, il va être de plus en plus difficile, ou également d'un point de vue éthique, de pouvoir s'y retrouver en tant que partenaire de la relation soignant-soigné. Un exemple tout simple. Si un patient de 95 ans a besoin d'une prothèse de hanche, si c'est établi entre lui et moi, je suis convaincu qu'effectivement il a besoin de cette prothèse de hanche, Hippocrate dirait, eh bien, il faut l'opérer. Sauf que dans une vision de la médecine qui n'est plus du tout de moins en moins hippocratique, ce n'est plus le fait que réellement je puisse avoir la certitude qu'il mérite d'avoir une prothèse de hanche qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, ça va être des indicateurs économiques, etc., etc. Et on va dire, oui, mais 95 ans, espérance de vie, etc., retour sur investissement espéré, etc., etc., il ne mérite plus, c'est presque une histoire de mérite, qu'on lui fasse une prothèse de hanche. Et c'est là qu'on va revoir, alors après en termes de santé mentale et autres, un certain nombre de problématiques éthiques qui vont naître d'un changement de paradigme, c'est-à-dire de rationalité médicale. Les questions pratiques et les réponses, j'essaierai de vous les donner après. Mais retenez ça. Il me semble que dans les années 90-2000, on a changé de modèle de rationalité médicale. On a quitté la démarche, alors je ne dis pas vous, mais en tant que système, la démarche hippocratique, même si elle reste évidemment très forte, par exemple en psychiatrie, c'est-à-dire ce moment décisif de la relation soignant-soigné, pour bien plus imaginer des systèmes de soins. Et le rôle du soignant à ce moment-là, ce qu'avait prévu Michel Foucault, en particulier dans une série de cours au Collège de France qui a donné naissance à un livre qui s'appelle « Naissance du biopolitique », c'est que le candidat à la maladie devrait un jour, et c'est le cas aujourd'hui, faire la preuve de sa culpabilité, montrer qu'il rentre bien dans une catégorie de population déterminée pour ensuite seulement après, pouvoir espérer être pris en charge. Hein, c'est-à-dire que, et c'est là où la question éthique va être décisive, on a transformé l'acte de soin qui n'est plus immédiatement un acte de confrontation entre toi et moi, on l'a transformé en une série d'actes procéduriers, etc., qui rendent uniquement possible la relation que si le patient, par sa biologie, par l'image, par un certain nombre de données, aura montré qu'effectivement il rentrait bien dans la case qu'on voulait lui attribuer. Et c'est là, à mon avis, que vont naître, c'est de cette confrontation de deux logiques que vont naître des problèmes éthiques majeurs. Quelques tout petits exemples. Très provocateur, mais parce que ça me questionne. Qu'est-ce qu'on va faire des vieux demain? Je dis exprès les vieux. Qu'est-ce qu'on va faire des vieux demain? Canguilhem avait prévu dans le Normal et le Pathologique en 1943 que la question de la vieillesse serait un des enjeux majeurs. Soit on considère que la vieillesse est un état qui a le droit de vivre, si je puis dire, normal. Vivre, c'est grandir, croître, puis un jour décroître, et puis un jour devenir très vieux. Et à ce moment-là, on n'acceptera pas d'emblée que la personne âgée soit considérée comme dans un état pathologique, ou que la vieillesse soit pathologique. Ouais, mais si demain on accepte l'idée que la vieillesse est pathologique, c'est-à-dire qu'il faudra lutter contre la vieillesse, puisqu'elle sera devenue pathologique. Alors, il y a deux solutions. Soit on redonne une vertu de jeunesse à ceux qui sont âgés, ça c'est le but de tous les magazines, mais on voit bien que ça ne marche pas à tous les coups, et qu'on peut avoir l'air jeune si on est vieux, pour l'instant on continue de vieillir et de mourir. Soit demain, on pourrait être tenté de supprimer la vieillesse. D'autant plus que l'économie y sera très sensible. Supprimer la vieillesse, c'est quand même extrêmement intéressant. Demain, vous légalisez l'euthanasie, vous supprimez la vieillesse. C'est très intéressant. Alors, on commence par la vieillesse, mais après aussi, on pourrait s'attaquer à un tas de... Économiquement, c'est pas rentable, un tétraplégique. J'en parlerai peut-être après. Économiquement, il y a plein de choses qui sont, par exemple, pas rentables. Et si on leur donnait une coloration éthique, plutôt si on donnait une coloration éthique à certains de nos choix, alors il faudra être très vigilant à ce qu'on va mettre derrière l'éthique. Est-ce que c'est pas, par exemple, l'économie qui va prendre le dessus? Je prends l'exemple des soins palliatifs. Moi, quand je suis revenu des Angleterres, j'avais plein d'idées en tête. Bernard Kouchner, à l'époque, m'avait demandé, avec Robert Zitoun à Paris, de réfléchir à comment on pouvait développer une médecine qui ne s'appelait pas encore la médecine palliative, etc., etc. Ça n'intéressait personne. Je ne vais pas donner d'exemple, mais il y a un hôpital pas loin où on traite remarquablement bien le cancer. Quand un des chefs de service d'oncologie a voulu créer sa première unité de soins palliatifs, elle a été mise à l'index par l'ensemble des médecins de l'institution. Parce que les mourants, non, pas ici. Ailleurs, oui, mais pas ici. Donc pendant 20 ans, il y a eu un ostracisme, puis après on a parlé un peu, c'est un effet de mode, des soins palliatifs. Et puis, après, il y a la T2A qui est arrivée. Et à ce moment-là, il y a des gens, je ne critique pas la T2A en tant que telle, mais certaines lectures de la T2A, qui se sont dit, ben finalement, la T2A, ça peut être intéressant si ça s'applique aux mourants. Hein, parce que le mourant, il vaut son pesant d'or, en même temps, il y a un prix de journée. Je touche une somme d'un côté et en même temps de l'autre côté. Alors l'équation est simple. Si vous touchez 3000 euros et que le prix de journée c'est 300 euros, au bout de 10 jours, par exemple, le patient il est plus rentable. Et donc finalement, on peut se dire si on faisait du soin palliatif. Et donc vous voyez un certain nombre d'établissements qui se mettent à faire du soin palliatif. Évidemment pas au nom de l'économie. Ils n'osent pas dire que vous, mourant, vous nous rendez service. Parce que vous remplissez nos caisses, mais en disant, c'est éthique, par exemple, de s'occuper des mourants. Donc faites extrêmement attention, on va en débattre. Qu'est-ce qu'on met derrière l'éthique? L'éthique, c'est un questionnement qui part du principe qu'entre toi et moi, ben, je ne sais jamais ce qui va se passer. On part sur un pied d'égalité théorique. Et puis, ben, il va falloir faire avec le peu de choses qu'on a, avancer. Peut-être qu'on sera confronté à des problèmes de morale. Peut-être qu'on sera confronté à des problèmes de loi, peut-être qu'on sera confronté à des problèmes d'économie, etc., etc. Mais c'est la raison pour laquelle l'éthique, c'est jamais quelque chose qui est définitif. C'est forcément en mouvement. C'est forcément quelque chose qui est mouvant. C'est forcément quelque chose qui est donc déstabilisant, instable, incertain, parce que la relation humaine est absolument incertaine. Bon, alors j'ai pas parlé après très concrètement... vous vous êtes posé des questions, les comités, pourquoi, comment ça marche, comment ça devrait fonctionner. Là, j'ai essayé de faire une archéologie du comment la question éthique continue de se poser depuis Hippocrate, comment elle est renouvelée depuis les années 70. Donc, c'est sûr qu'il faut faire ces lieux d'échange que sont les espaces éthiques. Alors après, comment parler d'éthique? Comment ne pas parler d'éthique? C'est tout ce que l'éthique n'est pas. Un machin institutionnel qui serait là uniquement sur le papier, une chambre d'enregistrement, etc. C'est quoi un comité? C'est quoi un espace? Comment faire vivre l'éthique à l'hôpital, dans vos établissements? Je pense que ce sont des thématiques qu'on peut aborder dans vos questions. Donc, je vais arrêter là pour vous laisser la parole. Merci.
Merci beaucoup. En tout cas, vous interrogiez sur nos attentes en arrivant. Je pense qu'elles sont comblées. En tout cas, vraiment, votre exposé était très intéressant, bien développé, illustré. Alors, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de questions. Moi, j'avais peut-être, en vous écoutant, quelques réflexions, puis aussi quelques questions pour démarrer la discussion. En fait, on a bien entendu que finalement l'éthique s'interroge plus sur l'évolution des pratiques que sur les pratiques elles-mêmes, sur la façon dont les choses changent et des nouveaux paradigmes arrivent. C'est pour ça que vous avez situé ces dates extrêmement importantes dans l'histoire des soins, l'histoire de la médecine, montrant que justement il se passait quelque chose d'important. Quelques réflexions qui me permettent de déboucher sur les questions. En particulier, sur Hippocrate, vous avez dit, oui, donc une révolution importante dans le dialogue qui s'instaure. Moi, ce que j'ai aussi d'Hippocrate, c'est qu'il pose le médecin comme étant un homme qui est dépositaire d'un savoir aussi, donc qui a des connaissances, et donc la façon d'obtenir ces connaissances va évoluer aussi dans l'histoire. Est-ce que les références que vous avez avec une médecine, enfin avec une approche plus mathématique, tout ça, c'est aussi témoigne de l'évolution, de la façon dont les connaissances vont être engrangées par les praticiens, donc c'est ça. Et la deuxième chose qui est importante aussi pour Hippocrate, c'est que Hippocrate est le premier, enfin un des premiers dans l'histoire à affranchir la médecine du divin, de tout ce qui est surnaturel. Et que disons, enfin avant, mais c'est très schématique de dire ça, mais c'est vrai que l'ordre des choses, c'était ça qui dominait, et qu'on soignait en fonction de l'ordre des choses et de l'organisation divine des choses, et que les malades, les maladies, les symptômes permettaient de refléter l'ordre des choses. Et donc en fait, là, le passage, à partir de ce que ça m'a éclairé, ce que vous avez dit, c'est que avec les trois niveaux, hein, le dialogue, la morale et la loi, c'est vrai que avant Hippocrate, la loi, c'était la loi divine, finalement, c'était ce rapport-là, mais il y a toujours ces trois niveaux. On va les retrouver un petit peu à chaque moment. Et on voit l'évolution avec la loi. Et vous avez fait référence aux lois nazies, qui finalement, ce qui caractérise les lois nazies, je ne suis pas juriste, je pense qu'il y aura des discussions, mais ce qui caractérise, c'est qu'on juge les gens, et on a jugé les gens, sur ce qu'ils, non plus sur ce qu'ils faisaient, mais sur ce qu'ils étaient. Religion, statut, race, etc. Et qui amenait à ces dérives. Et quelque chose qui apparaît, enfin, quelques discussions récemment avec des juristes, mais qui apparaît aussi un peu dans nos lois actuellement, où on commence non plus à condamner les gens sur des actes, mais aussi sur ce qu'ils sont, sur le risque, quand on parle de la prédiction, sur la dangerosité, etc. On est aussi dans cette évolution-là, et je pense qu'il y a un enjeu dans l'éthique, dans la réflexion éthique, puisqu'on est là dans quelque chose qui change, il y a un enjeu tout à fait important. Alors donc, situer un petit peu ça, et là où je me pose la question, vous avez situé comme niveau intermédiaire, celui de la morale. Et c'est celui peut-être que vous avez le moins développé dans votre exposé, et moi je me pose des questions, quels sont les repères? Autant la loi, on peut se repérer, l'influence divine, l'organisation des lois, le pouvoir. Vous avez situé un premier niveau, celui que vous appelez éthique, mais qui est dans le dialogue, le colloque singulier. Et la morale, là, j'aimerais bien que vous développiez un petit peu, parce que c'est aussi quelque chose qui nous interroge et puis qui a une emprise, et quelles sont les limites, quels sont les repères que vous pouvez nous donner.
Une première petite chose sur la question des outils. Évidemment que les mathématiques, le BM, la biologie, la radiologie, tout ça, ce sont des outils évidemment utiles. La médecine, il faut quand même le reconnaître, elle n'a jamais été aussi efficace qu'aujourd'hui. Bon. Mais, aurait dit Hippocrate, il ne faut pas confondre l'outil avec ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire que l'outil n'est pas une fin en soi. L'outil est un outil, c'est-à-dire au service d'une fin en soi qui est soit l'hypothèse, soit la relation de soins, ou colloque singulier. Bon. Quand, par exemple, même au Canada, c'est le même principe, je regardais des jeunes internes fonctionner, qu'on les voyait, ils voient arriver un patient, pratiquement jamais même, je vois un interne qui va, après un long examen clinique, faire une hypothèse et puis dire on va juste demander l'examen qui pourrait confirmer mon hypothèse. Il se lançait dans une batterie d'emblée d'examen, c'est-à-dire que l'outil devient une finalité en soi, une fin en soi, et évidemment, comme nous sommes tous biologiquement ou génétiquement modifiés, hein, nous sommes tous des OGM ou tout ce que vous voulez, si vous demandez une batterie d'examen, ben vous allez forcément trouver plein de choses. Et donc, il trouve plein de choses qui ne trouvent pas nécessairement la raison pour laquelle le patient est là. C'est-à-dire que je pense que le problème, c'est pas l'outil, c'est l'usage qu'on fait de l'outil quand l'outil devient une fin en soi. Hippocrate dit bien, moi je ne suis pas contre la connaissance. La connaissance, évidemment, elle est indispensable. Sinon, c'est du charlatanisme. Mais il faut que la connaissance soit rapportée à ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil, et rien que ça. C'est déjà énorme. Bon. Morale. Alors, j'ai évidemment pas insisté. Encore une fois, très court, en 2 minutes. Il y a 2 grandes familles de morale. Encore une fois, avec des variantes. Dans les familles, il y a des enfants déclarés, des enfants illégitimes, des enfants adoptés, etc. Donc on pourrait faire une arborescence et on trouverait plein de choses. Il y a 2 grandes familles qu'on peut repérer historiquement. D'abord, il y a les morales dites de l'hétéronomie, qui sont les morales des grandes religions du livre. Le judéo-christianisme et l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire hétéronomie? Hétéro, c'est l'autre. Hein. L'hétérosexuel, c'est lui qui pratique l'autre sexe. Ce sont les morales qui disent l'homme est pas suffisamment sage pour pouvoir se donner à lui-même ses règles morales. Donc, il faut que ces règles morales lui soient données comme un règlement de la partie de foot, parce que si on lui donne pas avant qu'il ne joue la partie, ils vont s'entretuer. Donc, il faut lui donner les règles morales. Et ces règles, eh ben, elles viennent d'ailleurs, elles viennent essentiellement d'un en haut, et ce sont, par exemple, la remise des tables de la loi sur le mont Sinaï, ou le Coran, c'est-à-dire que finalement, l'homme reçoit de Jéhovah, de Dieu ou d'Allah, ce qui va être son guide de bonne conduite. Et donc, être moral, selon cet ordre des choses-là, ben, c'est se comporter comme il est écrit dans la Bible ou le Coran. Et puis, il y a évidemment une deuxième grande famille de morale qui est encore une fois repérable historiquement et géographiquement, qui est celle qui est née de la Révolution française, puisqu'en 1789, même si Louis XVI est guillotiné en 93, c'est quand même la coupure, à la fois on coupe la tête du roi, mais la raison aussi pour laquelle il fallait lui couper la tête, c'était qu'il était le représentant temporel du pouvoir divin. Et donc, en coupant la tête de Louis XVI, on coupe aussi symboliquement le lien avec le transcendant. Mais donc, du coup, on ne peut plus faire référence à une morale hétérosexuelle qui viendrait d'un en haut, puisque l'en haut n'existe plus. Et donc, il faut refonder une morale sur autre chose que le lien vertical. Et là, la Révolution française, c'est la déclaration des droits de l'homme, va dire, après tout, on est peut-être fou, mais on n'est peut-être pas suffisamment fou pour ne pas pouvoir se réunir autour d'une table, et à partir du moment où nous sommes capables de raisonner librement, c'est-à-dire que nous sommes autonomes, on doit pouvoir édicter les règles d'une moralité qu'on appelle moralité morale de l'autonomie. Hein? Bon, alors, la grande difficulté dans nos pratiques de soins, puisque nous vivons dans une société Benetton, pluriculturelle, multiculturelle, eh ben c'est que c'est pas si simple qu'il y a 50 ans de parler de morale. Je vais souvent, par exemple, pour des raisons professionnelles en Bretagne, jusqu'à une époque, jusqu'au début des années 50, 60, même la Bretagne, c'était monolithique, c'est le cas de le dire. C'était chrétien-catholique. Donc là, soignant-soigné, le cadre de référence morale, c'était un référent commun, etc. Bon. Aujourd'hui, même en Bretagne, tout ça a explosé. Le Nord-Pas-de-Calais est une terre d'immigration, est une terre aussi de mélange, est une terre de voyage, est une terre tout ce qu'on veut. Donc nous sommes confrontés dans nos pratiques de soins à des morales qui peuvent être sur certains domaines, les fécondations in vitro, l'utilisation de l'embryon, etc., extrêmement conflictuelles. Alors là, il faut être, à mon sens, c'est une partie d'échec, habile au sens où l'éthique pose des questions. Parfois, elle ne trouve pas de réponse, souvent même, elle ne trouve pas de réponse, mais au moins, elle pose des questions. C'est le but de l'éthique, poser clairement les questions. Elle fait l'appel à la morale qui dit, oui, mais alors moi, je pense que, oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que mon cadre de morale, ce n'est pas le même. Alors, à ce moment-là, heureusement, il y a un troisième élément qui est le droit. C'est-à-dire que le droit dit, moi, je ne sais pas scientifiquement ce que c'est qu'un embryon. Par contre, moi, j'ai une définition juridique, j'ai un cadre légal, etc. Et c'est là où il faut l'articulation des trois, le temps du questionnement éthique, le temps des références morales, et puis aussi le temps du droit qui souvent va être un élément modérateur, ou qui va pondérer nos décisions, ou qui va aussi les éclairer. C'est-à-dire que les trois sont nécessaires. L'éthique tout seul, ça, on ne va pas aller loin. On va au moins poser les questions. La morale tout seul, c'est pas bon non plus. Parce qu'on va complètement enfermer le temps du questionnement éthique et on ne va pas voir, par exemple, que la médecine évolue. C'est le professeur Fabiani, à Georges Pompidou, il y a quelques années, qui fait un patient vient voir un autre patient. Il a l'excellente idée de s'effondrer juste devant l'entrée de l'hôpital Georges Pompidou. On l'amène aux urgences, ça tombe bien, il y a toute une équipe, ça tombe bien, M. Fabiani est disponible. On l'amène au bloc, quadruple pontage, il est sauvé. M. Fabiani vient le voir quelque temps après, ce patient, merci monsieur, merci pour tout ça. Qu'est-ce que vous avez voir quelque chose d'assez simple, voilà ce que j'ai fait, 4 vaches de porc. Et le patient était musulman. Donc, pour un geste technique qui, pour M. Fabiani, ne posait aucun problème, il y avait véritablement un problème majeur pour le patient musulman. Et il a fallu, c'est Dalil Boubaker, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui est en même temps médecin anesthésiste, qui m'avait expliqué, pour reprendre ces termes, je reprends ces termes, un bricolage, une sourate du Coran, pour dire, oui, c'était pas marqué, mais c'était quand même marqué qu'un jour, en cas de circonstances exceptionnelles. Voilà. Donc, après les deux grandes familles morales, autonomie et hétéronomie, quand vous avez des morales qui sont écrites, tirées du livre, ce qui est bien, à l'avantage, c'est que c'est écrit. Donc si c'est écrit yaka, yaka, et si c'est écrit yaka pas, ben yaka pas. Le problème, c'est qu'en médecine, plus on va avancer, plus, à mon avis, on va être en décalage par rapport avec ces textes qui sont quand même déjà anciens. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, c'est une réalité, la fécondation in vitro, les diagnostics prénatales, etc. C'est une réalité. Qu'est-ce qu'on en fait uniquement par rapport à ce cas? Puis l'inverse, c'est que si je suis confronté à une morale de l'autonomie, c'est certainement beaucoup plus actuel, puisqu'elle s'actualise en permanence, ce sont des gens qui se réunissent entre eux, mais en même temps, on ne peut pas exclure qu'un groupe, sous l'effet d'un lobby, obtienne finalement que telle ou telle loi soit votée, et que cette loi, à ce moment-là, mette en difficulté réellement l'éthique au sens fort. Donc aucun des deux groupes n'est entièrement satisfaisant. C'est la raison pour laquelle le troisième temps, qui est celui de la loi, est déterminant. Parce que le droit, dans sa rigueur, va dire, voilà, c'est blanc, c'est gris, mais peut-être effectivement qu'il y a une jurisprudence, peut-être qu'il faut adopter, mais au moins on a le secours toujours de l'un des autres moments.